9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Il a eu à gérer l'épidémie de H1N1 en France avec ses millions de vaccins et ses centaines de millions de masques inutilisés. Il préside aujourd'hui au sein de l'OMS le comité d'urgence sur le Covid-19. Didier Houssin, l'ancien directeur général de la santé, sera mon premier invité. Il a dû fermer les deux tiers de ses hôtels dans le monde. Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, premier groupe hôtelier d'Europe, sera en ligne avec nous. Enfin, professeur agrégé d'histoire, Corentin Célin, observateur passionné de la vie américaine. Trump, face au virus, atermoiement et inaction coupable, alors que l'épidémie galope aux États-Unis. Voilà le sommaire.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Didier Houssin.
Bonjour.
Vous avez été chirurgien, chef de service à l'hôpital Cochin. Comme directeur général de la santé, pendant 6 ans, vous avez eu à affronter plusieurs épidémies, le chikungunya en 2005, puis la grippe aviaire, puis le H1N1 en 2009. Épisode très éclairant pour la crise actuelle, on va y revenir un peu plus tard. Mais d'abord, le masque qui devient une question à la fois stratégique et polémique. Vous êtes membre, Didier Houssin, de l'Académie de médecine qui vient de recommander le port du masque. À votre avis, devrions-nous ou devrons-nous tous porter un masque pour se protéger et faire reculer l'épidémie?
L'Académie nationale de médecine, effectivement, a travaillé sur ce sujet et recommande que la population qui est amenée malgré tout en période de confinement à devoir sortir parfois pour faire des courses, pour s'aérer, je ne parle pas là des professionnels qui doivent bien sûr être protégés au maximum, mais quelqu'un qui porte un masque finalement protège un peu ses concitoyens en ne projetant pas des virus si c'est un porteur sain ou s'il est en période d'incubation ou s'il pense avoir été guéri mais ne l'est pas complètement. Et donc si chacun porte un masque dans cette période-là, finalement tout le monde se protège mutuellement et donc c'est une mesure supplémentaire de protection et de retardement de la propagation du virus.
Le problème, Didier Houssin, c'est que si on considère que le masque est efficace, s'il fait effectivement barrage à la transmission du virus, à quoi bon rester confiné? Ça n'a plus de sens.
Alors, malgré tout, on sait très bien que le port du masque n'est pas une mesure qui a une efficacité absolue. Et donc, ça ne peut être qu'une mesure supplémentaire. Dans la phase actuelle, l'objectif était évidemment de protéger, d'éviter un afflux massif de personnes gravement malades, en particulier dans les services de réanimation. Donc, le confinement a été à juste titre décidé, comme dans beaucoup de pays, pour protéger les établissements de santé face à un afflux de patients. Il s'agit d'une mesure de renforcement supplémentaire des mesures aujourd'hui préconisées, dont le confinement fait partie. Mais il faut aussi se préparer à ce qui sera la sortie du confinement. Et il est vraisemblable, c'est l'avis de l'Académie nationale de médecine, que recommander le port du masque par l'ensemble de la population en sortie de confinement sera également une mesure de précaution dans cette période-là.
Pas efficace à 100%, donc, mais peut-être utile en renforcement. C'est pour ça que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont vous êtes l'un des conseillers, ne recommandez pas le port du masque pour tous dans cette crise?
Disons que ça ne peut pas être considéré comme une méthode, disons, à privilégier. Il est sûr que ce serait beaucoup mieux de disposer de vaccins, de médicaments antiviraux. Il est beaucoup plus important, évidemment, de protéger les professionnels de santé qui sont confrontés aux patients et les professionnels les plus exposés. Mais ça peut être une mesure supplémentaires et il faut être attentif à l'expérience des pays d'Extrême-Orient qui, depuis l'épidémie de SRAS, depuis l'épidémie de MERS en Corée du Sud, ont finalement adopté, je pense au Japon aussi, l'habitude de porter un masque dans les périodes d'épidémie de maladies respiratoires. Et après tout, finalement, pourquoi ne pas s'inspirer de ces initiatives?
Comment voyez-vous la suite, Didier Houssin, avec ou sans masque, enfin plutôt avec un masque sur le visage, le retour à une vie normale dans nos sociétés aujourd'hui confinées? Ce sera long et compliqué?
Ce sera sans doute assez long. Quand on lit ce qui est publié actuellement en Chine sur la ville de Wuhan, on voit bien que le retour à une vie normale se fait au prix de, disons, d'une certaine lenteur, de difficultés, de souffrances. Là, vous évoquiez Marianne Faithfull, as tears go by. Je crois que c'est bien ça. C'est-à-dire que, malheureusement, les choses ne vont pas retourner immédiatement à la normale. Il y aura une phase de transition, une sorte de réapprentissage de la vie normale, probablement.
De plusieurs mois?
Ça, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire.
Oui, parce qu'il y a encore l'incertitude sur est-ce que le virus peut continuer de circuler jusqu'au prochain hiver? Est-ce qu'il Est-ce qu'il passera l'été? Est-ce qu'il supportera la remontée des températures et la chaleur, hein? Alors, ça n'est pas établi.
On ne sait pas aujourd'hui quelle va être l'influence de la température et de l'hygrométrie sur ce virus. On le sait un peu pour les virus de la grippe, mais coronavirus, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas non plus quelle est la proportion de la population qui a été exposée au virus et qui donc est possiblement immunisée. Malheureusement, on n'a pas de vaccin et donc effectivement, le virus va poursuivre sa stratégie qui est de finalement d'occuper le maximum de la population humaine. Mais il y a un moment donné où il va se heurter à une partie de la population suffisamment immunisée. Toute la question est de savoir quelle sera cette partie de la population immunisée afin de prédire oui ou non, est-ce qu'il y aura éventuellement une seconde vague épidémique. Mais ça, seules des études de séroépidémiologie permettront de le montrer.
Oui, ça veut dire que forcément, dans les prochains mois, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous sera marqué, identifié par rapport au virus, c'est-à-dire que le pays sera composé de deux catégories de Français, les naïfs et les immunisés.
Alors, disons d'un point de vue théorique, oui, mais en pratique, il serait sans doute pas souhaitable de considérer que chacun va porter un papier avec positif ou négatif. En plus, ce serait pas probablement réaliste ni opérationnel. Et puis, les tests biologiques, vous savez, sont pas des tests qui donnent nécessairement des résultats toujours absolument évidents. En plus, il faut les avoir en quantité suffisante, il faut qu'ils soient suffisamment fiables. Donc il n'est pas certain que la question du résultat des tests soit un élément déterminant pour prendre des décisions en matière de sortie de confinement.
Oui, mais des décisions éventuellement individuelles pour chacun d'entre nous. On ne sera pas tous égaux et exposés de la même façon à la progression de l'épidémie et au virus.
Ah ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus exposés sont ceux qui sont exposés aux malades, c'est-à-dire les professionnels de santé dans tous les secteurs, mais aussi les professionnels les plus exposés, les personnes qui travaillent en guichet, en accueil ou dans le domaine de la sécurité, par exemple.
Didier Houssin, ancien directeur général de la Santé, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on reparle de l'épidémie de 2009 dont vous avez été l'un des acteurs. Ce sera dans un instant, après une courte pause.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Avec mon premier invité Didier Houssin, je rappelais professeur que comme directeur général de la santé entre 2005 et 2011, vous avez eu à affronter plusieurs pandémies, dont le H1N1 en 2009. C'est une crise dont vous avez fait le récit dans un livre « Face aux risques épidémiques » chez Odile Jacob, dont vous vouliez qu'il soit un aide-mémoire contre l'oubli des crises épidémiques, contre l'oubli. Parce que on se souvient des doses de vaccins et des masques qui nous sont restés sur les bras, mais pas de la catastrophe annoncée qui finalement n'a pas eu lieu. Comment expliquez-vous qu'il y ait eu une surestimation du risque en 2009 et une sous-évaluation en 2020?
Alors c'est un sujet difficile. Bon, je pense qu'il y a eu la clé a été la grippe aviaire et la menace H5N1. Vous vous souvenez de ce virus qui contaminait les oiseaux et qui a conduit, parce que la menace était très forte, le virus était très dangereux, à se préparer de façon extrêmement active à partir de 2005, à constituer des stocks de masques, d'antiviraux, à préparer la fabrication rapide de vaccins adaptés à ce type de virus. Et donc on s'est préparé effectivement de façon très active à cette menace. Et puis, de façon inattendue, est survenue une pandémie d'une autre nature, H1N1, pour laquelle finalement on était plutôt bien préparé. Certains ont dit ensuite trop préparé, car elle s'est révélée finalement un peu moins grave que prévu, même si elle a quand même fait 200 000 décès à la surface du globe. Et on peut imaginer qu'à la suite de ce constat, je me souviens qu'on avait été très critiqué pour avoir, je dirais, préparé peut-être de façon excessive le pays, eh bien, il y a eu sans doute, on est passé de l'autre côté du cheval et peut-être une certaine démobilisation. L'oubli, si vous voulez, il fut un temps où on considérait que c'était une ruse du diable. Eh bien, je crois que c'est un peu ça, c'est-à-dire que petit à petit, la préparation a dû se déliter. J'avoue que j'ai été très étonné, pour pas dire déçu, de constater que le stock de masques qui avait été constitué, ben finalement, n'avait pas été maintenu, renouvelé, comme on le fait dans un esprit de défense. Si vous voulez, quand un porte-avions est obsolète et fatigué, on essaye de le remplacer.
Vous dites très critiqué à l'époque, c'est plus que ça. Je rappelle que Les sénateurs de la commission d'enquête ont alors accusé l'OMS d'avoir été manipulé par l'industrie pharmaceutique, d'avoir inventé une pandémie pour faire vendre des vaccins. Hein. C'était ça quand même.
Vous avez raison. Il y a eu la mission d'information parlementaire, commission d'enquête de l'Assemblée nationale, commission d'enquête du Sénat, Cour des comptes. Et je me souviens d'avoir même passé une journée à la rue du Château des Rentiers à la police, parce qu'on nous accusait effectivement d'avoir été sinon roulé par l'industrie, peut-être même corrompu.
Oui. Vous écrivez aussi, Didier Houssin, que le risque pandémique est toujours dominé par l'incertitude. Ça veut dire qu'il faut toujours prévoir le pire ?
Oui, je pense qu'il faut... Si vous voulez, c'est une leçon quand même du passé, c'est que les épidémies, c'est comme les guerres, ça se reproduit de façon régulière et qu'il y a intérêt à s'y préparer. Je pense qu'il ne faut plus les subir comme on le faisait dans le passé et comme malheureusement on l'a peut-être encore trop fait. Il faut essayer de s'y préparer au maximum. Alors, ça ne veut pas dire que la préparation sera une préparation totalement adaptée, mais anticiper la production de vaccins contre un coronavirus qui est déjà sorti en 2003 et en 2012, est-ce que ça n'est pas possible ? Anticiper la production d'antiviraux face à un coronavirus, maintenir des stocks de masques dont on sait que quand on n'a rien, ben finalement, c'est la seule arme qui permet un peu de protéger les soignants et qui peut aussi un peu rassurer le public. Voilà, tout ça, c'est sans parler des préparations d'organisation, de stratégie qu'il faut mener.
Oui, je cite le titre du dernier chapitre de votre livre, Didier Houssin, « La prochaine fois, serons-nous bien préparés ?» Et vous devez constater aujourd'hui que la réponse a été non. Et c'est un peu désespérant, non ?
Ben c'est un peu décevant, même si ça n'interdit pas d'espérer pour l'avenir que nous serons mieux préparés la prochaine fois.
Alors, entre-temps, je dois dire que vous êtes également, au sein de l'OMS, le président du comité d'urgence Covid-19, donc comité d'experts qui a recommandé au directeur de l'OMS à la fin janvier de déclarer l'épidémie actuelle urgence de santé publique de portée internationale. Vous trouvez que c'est une alerte qui a été prise au sérieux ?
Bah écoutez, oui, je pense qu'elle a été prise au sérieux dans la mesure où ça a permis à l'OMS de formuler un certain nombre de recommandations, ça a permis d'alerter les États membres. Est-ce qu'ils ont tous réagi de façon rapide ? Est-ce qu'ils ont tous... Ça, c'est une question qu'il faudra examiner à la fin. Malgré tout, cette pandémie a des caractères tout à fait particuliers par la contagiosité du virus, la rapidité de la propagation à la surface du globe. Donc c'est un peu tôt pour tirer des leçons, mais il faudra le faire sur la façon, par exemple aussi, dont les États membres développés ont coopéré et aidé les pays les plus pauvres, parce que la question va quand même devenir cruciale, par exemple en Afrique.
Oui, c'est une situation qui peut être très inquiétante dans des populations très vulnérables et qui ne peuvent pas être confinées comme dans les pays développés.
Mais c'est difficile pour un pays développé lui-même en situation très difficile d'aider un autre pays. Hein. Voyons la situation en France, elle n'est quand même pas facile.
La Chine a-t-elle tout dit à l'OMS sur le démarrage, la nature et l'ampleur de l'épidémie ?
Écoutez, moi je suis pas placé pour faire des enquêtes et du renseignement et tout ça. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que les cas ont été signalés fin décembre à l'OMS, que très vite la Chine a su isoler le virus, séquencer son génome, a très vite mis la séquence génomique sur une base européenne de données de séquences génétiques. Voilà, lorsque le comité s'est réuni la première fois le 22 janvier, on nous a présenté, les autorités chinoises ont présenté la situation épidémiologique. Bon, il n'y avait pas d'éléments qui laissaient soupçonner que des choses étaient cachées. Mais vous savez, pour des autorités sanitaires d'un grand pays comme la Chine, c'est pas facile d'agréger les données, de faire remonter du terrain, comme on dit, de la ville, de la région, et de s'assurer de la qualité des informations qui remontent. Il y a aussi des aspects techniques qu'il faut considérer dans la présentation des données épidémiologiques.
Mais aujourd'hui, Didier Houssin, il n'y a pas un bilan chinois qui pose question compte tenu du développement de l'épidémie dans le reste du monde ?
Bah, disons que la Chine a connu une épidémie très importante. Actuellement, quand on regarde la courbe, effectivement, la situation s'est à peu près normalisée, même s'il y a probablement des cas qui reviennent actuellement en Chine et qui risquent de faire repartir une éventuelle vague épidémique. Bon, je pense que ces analyses précises de la véracité de l'ensemble des données épidémiologiques, c'est pas en cours de situation de crise qu'on peut faire les choses. Il faut aborder ça de façon scientifique et je pense qu'il y a des épidémiologistes qui feront ce genre de travail.
Bien sûr, mais vous avez souligné tout à l'heure un élément clé, c'est-à-dire la contagiosité de ce virus. C'est cet élément-là qui a surpris le monde entier et qui sans doute a fait baisser la vigilance sur son danger, sur son risque de propagation. Quand avez-vous pris conscience, vous, comme expert, comme spécialiste, du danger possible d'une pandémie mondiale qui puisse toucher tous les pays développés?
C'est assez simple. C'est-à-dire que le 23 janvier, lorsque le comité a été convoqué, et qu'il y avait 4 cas en dehors de Chine. Et le comité a, en gros, a été partagé. La moitié disait c'est trop tôt, la moitié disait si, c'est une urgence. Donc la position de consensus a été de dire c'est un peu trop tôt, mais on va quand même formuler des recommandations au directeur de l'OMS et on va lui dire qu'on est prêt à être convoqué, évidemment, dans les jours qui viennent. Et effectivement, une semaine plus tard, il n'y avait plus 4 cas, mais 80 cas à l'étranger, et le comité, à la quasi-unanimité, a considéré que c'était bien une urgence de santé publique de portée internationale. Donc ça veut dire que malgré tout, la rapidité de propagation a été l'élément qui a déterminé le comité.
Merci beaucoup Didier Houssin d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1.
Merci.
Europe 1.
Comment une entreprise de taille mondiale peut-elle supporter un tel coup d'arrêt économique? Le groupe Accor doit fermer les 2/3 de ses hôtels. Son PDG Sébastien Bazin sera avec nous dans un instant.
Europe 1. Comme chaque dimanche, on vous retrouve Patrick Cohen, mais de chez vous bien sûr pendant cette période, pour cette arrivée demain.
Bonjour Sébastien Bazin.
Bonjour.
PDG d'Accor, le premier groupe hôtelier européen, le 6e dans le monde, Novotel, Sofitel, Ibis, pour les marques les plus connues, des enseignes présentes sur tous les continents, 5000 hôtels, 300 000 collaborateurs et une activité complètement à l'arrêt aujourd'hui.
Oui, presque, en dehors de la Chine qui repart un peu et j'espère de la Corée du Sud. On a aujourd'hui entre 2/3 et 75% de nos hôtels qui seront à l'arrêt dans les 3-4 jours. En fait, on a 90 pays sur les 110 pays dans lesquels on est implanté qui sont aujourd'hui soit confinés, soit ont fermé les frontières. Donc, vous savez, de toute façon, pour nous, c'est assez simple d'analyser la situation. Il nous faut 3 choses pour vivre. La première chose, il faut la libre circulation des personnes. La deuxième chose, il faut le développement du voyage d'affaires. Et la troisième chose, il faut l'essor du tourisme. On peut convenir tous les deux au téléphone que ces 3 choses-là ont disparu en l'espace d'un mois et demi.
Combien de salariés sont aujourd'hui privés de travailler ou d'emploi?
C'est le plus dur, ça. C'est aujourd'hui à peu près 220 000 sur 300 000. On a été obligé de leur expliquer entre le 20 mars et le 30 mars pour que ça soit effectif le 1er avril, c'est-à-dire le plus tôt. Que malheureusement, ils sont soit en chômage partiel, soit, selon les pays, il y a un licenciement sur 60 jours, sur 90 jours, soit de manière permanente. Et c'est hyper compliqué parce qu'ils y sont pour rien. Et pourtant, les hôtels sont fermés à compter du 1er avril, en tout cas pour ceux dont j'ai cité. Donc, c'est comment se montrer disponible, généreux, humble, fort. Tout ça n'est pas dramatique, hein, ça reviendra. Mais on vit des moments qu'on n'a jamais connus parce qu'on n'a jamais eu autre chose, quelque chose qui est aussi global, aussi soudain et dans le même temps. Et en plus, ce qui pour moi a été très étonnant, c'est que je pensais que la Chine allait mieux. Naïvement, j'ai pensé que l'Asie-Pacifique allait donc aller mieux. Et en fait, c'est totalement faux, puisque juste après la Chine, il y a eu toute l'Asie du Sud-Est, la Birmanie, Laos, Thaïlande, puis il y a eu l'Indonésie, puis il y a eu la Malaisie, puis il y a eu l'Europe du Sud, puis l'Europe du Nord, puis le Canada, puis le Brésil, puis l'Argentine, puis le Chili, puis le Pérou, puis les États-Unis, puis l'Inde. Enfin bon, puis après, aujourd'hui, depuis 4 jours, toute l'Afrique noire, le Moyen-Orient. Donc non, personne n'est épargné, mais c'est pas grave. On est dans une industrie qui est une très belle industrie, qui reviendra, j'espère, le plus vite possible. En attendant, on doit prendre des décisions qui sont très difficiles quand on n'a plus de chiffre d'affaires que de colmater les coûts. Mais on doit aussi être extraordinairement présent, plus présent que jamais auprès de ceux qui sont toujours là en train de travailler et à l'écoute de ceux qui n'ont plus d'emploi. Pour être certain qu'on leur donne le minimum, soit de manière alimentaire, soit surtout pour l'accès à l'hôpital. Ce qu'on a fait avec une partie des dividendes.
Vous pouvez aider une partie de vos salariés à passer la crise ?
Oui, ce qui a été fait, ce qui est un peu inédit, mais le conseil d'administration a décidé il y a deux jours que dans le contexte actuel, même si nous avions les reins solides et toute la trésorerie disponible, donc on est parfaitement capable de faire face à cette crise, et bien qu'on n'allait pas payer le dividende de 280 millions, mais qu'il fallait donner un sens à cette décision. Et le meilleur moyen d'y donner du sens, c'est après avoir vu mes 5 plus gros actionnaires et leur avoir demandé un peu leur consentement, c'est de dire, allez, 25% de ce montant, 70 millions d'euros, eh bien, on va le mettre de côté dans un fonds dédié. Et ce fonds, justement, devra répondre, en fait, à 4 choses très précises, hein, mais qui sont très importantes pour pouvoir fédérer tout le monde et le sentiment de fierté et de passer cette crise. En tout cas, d'être tous alignés et ensemble. Le premier, c'est de dire, dans ces 220 000 personnes qui sont mises sur le côté, j'espère le plus temporairement possible, beaucoup d'entre eux n'ont pas de couverture médicale et sociale dès lors qu'ils ne sont plus employés. Et moi, je ne veux pas qu'un seul de ces 220 000 personnes souffre du coronavirus et en plus ne puissent pas être hospitalisés. Donc, une partie de cet argent sera pour que ces 300 000 personnes chez Accor qui travaillent ou non hier et aujourd'hui aient accès à l'hôpital et qu'on puisse le payer. La deuxième chose, c'est que beaucoup d'entre eux, notamment quand vous êtes au Nigeria, quand vous êtes au Chili, quand vous êtes au Laos, même aux États-Unis, d'ailleurs vous partez avec 20% pendant l'espace de 90 jours de votre salaire, donc entre la veille et le lendemain vous aviez 100% et vous retrouvez avec 20%, vous ne pouvez plus faire face à beaucoup de choses. Et donc tout ce qui est distress alimentaire familial, ces 70 millions au cas par cas seront alloués pour qu'on puisse les aider. Troisièmement, c'est nos petits propriétaires, nos partenaires, des start-up, tout cet écosystème qui est vital pour qu'on puisse repartir. Je ne veux pas que certains d'entre eux disparaissent. J'ai trop besoin d'eux pour me remettre en activité dans 3 mois, dans 4 mois. Donc, on va probablement les aider à travers de la trésorerie et autre chose. Et enfin, notre façon de remercier tous ceux qui sont sur le front, le personnel soignant, les forces armées, tous ceux qui bossent pour être certains qu'on sera là pour eux quand ils auront besoin un peu de repos, d'être de nouveau en famille et de se reposer. Bah, peut-être que Accor pourra ouvrir, et j'espère, ses hôtels en grand avec de très grandes facilités. Donc voilà oui. Pourquoi cet argent a été mis de côté.
Oui, vous venez d'y faire allusion. Ces chambres vides, elles peuvent servir. Vous aviez annoncé la mise à disposition de certains de vos hôtels ou de vos chambres pour loger des soignants en région parisienne, ça se fait ?
On l'a fait déjà, il y a déjà plus de 8000 chambres qui sont utilisées aujourd'hui par le groupe Accor et d'autres de nos confrères. Hein. Mise à disposition, personnel soignant, sans-abri, femmes battues, une population très large hein, qui ont besoin d'être hébergées aujourd'hui, d'être assurées, soit près de leur lieu de travail. Mais donc ça s'est démultiplié, on a mis en place une structure de réservation qui s'appelle CEDA, qui s'appelle Covid Emergency Desk Accor, donc qui centralise ce que veut la PHP, ce que veut le ministère de l'Intérieur. Ça marche très bien, on fait la même chose sur maintenant Belgique, Allemagne, Italie, Angleterre. Et puis vous avez raison, Patrick Cohen, moi je suis totalement disponible, je l'ai dit et répété, puisque nous avons des centaines de milliers de chambres, en Europe uniquement, Accor a 350 000 chambres, donc 3000 hôtels qui sont là en Europe, plus de 1000 qui sont en dehors de l'Europe, ils sont aujourd'hui disponibles pour les autorités de n'importe quel pays pour peut-être aider quand on sera dans ce déconfinement. Car ouais. Elles sont là et elles peuvent recevoir des gens qui peuvent encore être infectants, contaminés, et on peut aussi s'en occuper sans qu'elles soient encore chez elles.
Donc si il y a des soignants ou des personnes qui nous écoutent, là, ils peuvent s'adresser à vous encore avec cette adresse.
Y compris pour les repas chauds. On distribue aujourd'hui 2500 repas chauds à travers nos cuisines qui sont non utilisées. On le fait avec Potel Chabot, on le fait avec Molitor à Paris. Donc voilà, les hôpitaux en France, en tout cas le PHP à Paris, et ben voilà, on distribue des repas chauds midi et soir. Et ça fait du bien à tout le monde. J'espère que ceux qui les reçoivent, ils les trouvent bons. Mais ça fait beaucoup de bien de se sentir utile, y compris pour nos collaborateurs qui sont ravis de revenir, y compris dans un hôtel fermé pour réouvrir les cuisines.
Sébastien Bazin, combien de temps un groupe comme le vôtre peut supporter une telle mise à l'arrêt sans le mettre en péril ? Est-ce que l'entreprise est en danger ?
Alors heureusement non dans le cas d'Accor, puisque nous avons ici une transformation depuis 6-7 ans et heureusement nous avions vendu beaucoup de murs hôteliers, donc nous sommes aujourd'hui des exploitants, donc on a commencé l'année avec 2,5 milliards d'euros de trésorerie, ce qui est beaucoup d'argent et qui nous permet de faire face à cette crise, même si elle devait durer 12 mois, 14 mois, Accor sera toujours debout sur ses deux jambes. Mais c'est vrai pour Accor, ça ne sera pas vrai pour la grande majorité de mes confrères, notamment ceux qui sont propriétaires de 1 ou 2 hôtels en France. Ils ne pourront pas tenir au-delà de 60 jours ou 90 jours.
Donc, ceux qui ont des loyers à payer, vous voulez dire ?
Des loyers à payer, oui bien sûr, des loyers à payer, un amortissement d'un prêt, un certain nombre de coûts énergétiques, de coûts de télécom, tout ça n'a pas baissé. Hein. Non, il faut, vous savez, dans ces moments-là, le plus important, c'est d'être à l'écoute, disponible, partager l'info de manière à mesurer l'impact. Si on arrive à partager l'information et être accessible, à ce moment-là, on prendra les bonnes décisions parce qu'on a la bonne information.
Accor est coté en bourse, vous n'êtes pas à la merci d'un prédateur qui pourrait racheter le groupe?
Oui, alors ça, je vais vous dire, dans mes 10 priorités, celle-là, c'est le cadet de mes soucis. Hein. Je vais d'abord m'occuper des collaborateurs, de mes clients, de mes propriétaires et puis des autorités de santé. On va laisser le marché de côté pour l'instant parce que ça fait longtemps que j'ai compris que l'action monte ou baisse. Je n'y suis pas pour grand-chose. Donc, ouais. je regarde bien sûr où elle se situe tous les jours, mais très franchement, de savoir qui achète, qui vend aujourd'hui, ça m'est complètement égal.
Un dernier mot, Sébastien Bazin. Accor est l'un des principaux sponsors du Paris Saint-Germain, mais il n'y a plus de championnat, le football est arrêté. Vous continuez à verser ce qui est prévu au club?
La réponse est oui. D'abord, nous avons des liens contractuels, donc Accor les a toujours respectés, les respectera toujours. Et en plus, je me suis pris un peu le pied dedans il y a deux jours sur BFM. Nous avions déjà payé l'intégralité de la saison 2019-2020, donc tempête dans un verre d'eau. Tout va bien et on est très fiers d'être associés au Paris Saint-Germain.
Oui, vous aviez dit que vous ne payiez pas la totalité, mais vous faisiez allusion peut-être à la saison d'après ou non? C'était ça
Oui, vous savez, je faisais allusion au fait que quand on est sponsor, on veut de la visibilité. Mais en même temps, je le dis depuis tellement souvent, c'est dans les mauvais moments qu'on reconnaît ses amis et ceux qui ont été là pour vous. Donc dans les moments de tempête et de joie, on sera aux côtés de gens avec lesquels nous sommes partenaires.
Oui, mais on peut vous dire aussi que vous êtes en train de payer des footballeurs au chômage.
Oui, alors ça, c'est pas moi, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, moi, je m'occupe des miens. Le Paris Saint-Germain s'occupera de ses joueurs. Mais non, il n'y a pas lieu à polémique ici du tout.
Merci beaucoup, Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor, d'avoir été en ligne avec nous ce matin
beaucoup.
En direct. Europe 1. Les États-Unis épicentre de l'épidémie avec un président Donald Trump dépassé par la catastrophe en pleine année électorale. On en parle avec le spécialiste des États-Unis, Corentin Célin, dans un instant.
Europe 1, c'est arrivé demain. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour, Corentin Célin.
Bonjour.
Professeur d'histoire et, je le disais tout à l'heure, observateur passionné de la vie publique américaine. Et le Covid-19 aux États-Unis, c'est à la fois une tragédie terrible, une épidémie qui galope, déjà plus de 8000 morts, dont près de la moitié dans l'État de New York, mais aussi un phénomène politique étonnant et passionnant. C'est le populisme trumpiste confronté au réel, plongé dans la crise, où l'on voit un président américain qui fait l'inverse de ce qu'on attend d'ordinaire d'un leader en temps de crise, c'est-à-dire le sérieux, la hauteur de vue, la cohérence, l'anticipation et l'empathie, l'attention aux autres, sans perdre pour l'instant de popularité dans sa base électorale. Comment regardez-vous ce phénomène politique très particulier ?
La première chose qu'on peut dire, effectivement, c'est que Donald Trump continue la politique comme il l'a toujours fait, avec deux aspects essentiels. Premièrement, une gestion qui reste très partisane, c'est-à-dire que par exemple, il n'hésite pas à mettre en cause violemment certains gouverneurs démocrates. On peut penser à la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qu'il a attaqué plusieurs fois très 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 violemment. On voit là donc sa volonté toujours de cliver, de désigner des responsables dans le camp d'en face. Il ne cherche absolument pas à être dans le consensus, comme c'est normalement la tradition dans ces périodes de crise. Deuxième aspect qui, là aussi, et comme toujours avec lui, c'est la grande méfiance qu'il exprime envers les sachants, envers les scientifiques. On le voit, on l'a encore vu hier soir par exemple, quand il n'a pas pu s'empêcher de reprendre à la volée le docteur Fauci, le grand médecin épidémiologiste qui l'assiste durant la crise, et il lui a dit non, mais peut-être qu'on pourra quand même revenir au plus vite sur les mesures de distanciation sociale. Mais là encore...
Oui, on ne va pas détruire notre pays, a dit Trump à ce moment-là,
ouais,
hein,
exactement.
Dans cette intervention.
Exactement, mais encore une fois, c'est la politique comme il l'a fait depuis 4 ans, d'abord comme candidat, puis comme président. Et pour lui, on le voit bien, il gère le coronavirus comme il a géré tout le reste. Il ne bouge pas d'un iota.
Et c'est effectivement très, très troublant. On va reparler de Trump, Corentin Célin, mais il faut d'abord s'intéresser à ce que vivent les Américains aujourd'hui, parce que c'est une crise qui jette brutalement des millions de gens dans la précarité. Hein.
Oui, absolument. Donc il faut se rendre compte que lors des deux dernières semaines, il y a 10 millions d'Américains qui se sont inscrits pour toucher les assurances chômage. 10 millions. C'est bien plus élevé que lors de la grande récession de 2008. C'est un chiffre jamais vu. On a vu aussi, par exemple, hier, des queues de plusieurs kilomètres de voitures qui attendaient pour aller à la banque alimentaire. Parce que, il faut le rappeler, aux États-Unis, quand vous avez un emploi, très souvent, pour plus d'un Américain sur deux, vous avez aussi une assurance santé qui vous est fournie par votre employeur. Donc quand vous êtes au chômage, vous perdez tout. Vous perdez votre emploi et vous perdez aussi votre assurance santé. Et donc on a des centaines de milliers d'Américains qui sont en train de basculer dans la pauvreté, qui dépendent déjà des banques alimentaires. Et on voit bien donc le choc que représente déjà le coronavirus pour la société américaine.
On n'est pas sûr d'ailleurs que les malades hospitalisés ne reçoivent pas ensuite une facture du système de santé ou de l'hôpital, hein.
Oui, absolument, car il faut rappeler, et ça c'est vraiment très spécifique aux États-Unis, les États-Unis sont la seule grande démocratie industrialisée qui n'a pas d'assurance santé universelle, et encore moins d'assurance santé universelle et publique. Et donc, bien sûr, les gens qui seront en situation de détresse seront soignés, mais, et c'est déjà le cas, recevront ensuite des additions médicales qui peuvent monter à plusieurs dizaines de milliers de dollars, et on se demande bien qui les paiera. Et vraiment, les États-Unis aujourd'hui payent en quelque sorte ce choix historique qu'ils ont fait il y a très longtemps de ne pas avoir une assurance santé universelle.
Des Américains qui, de surcroît, n'ont pratiquement pas, pour les classes les plus modestes ou même les classes moyennes, qui n'ont pratiquement pas d'épargne de précaution et n'ont pas d'argent de côté pour en cas de coup dur. Donc on a vraiment une situation qui peut être tragique sur le plan social et humain, hein.
Oui, absolument. On redécouvre aussi un aspect qui est central de l'économie américaine. C'est une économie qui fonctionne sur le crédit, qui fonctionne sur l'endettement. L'endettement public, ça, on le sait, l'endettement fédéral, mais aussi sur l'endettement des ménages. Effectivement, et depuis la grande récession de 2008, rien n'avait changé. De ce point de vue, tout était en quelque sorte, malgré des garde-fous supplémentaires, reparti sur cette notion de consommation par l'endettement des ménages. Et évidemment, à chaque choc, et là le coronavirus est un choc majuscule, eh bien on se retrouve avec des ménages qui sont surendettés, qui n'ont pas les moyens de dégager des capacités d'achat, j'allais dire, de première nécessité.
Pour ce qui marche pour le système de santé, pour les hôpitaux, la situation des hôpitaux, quelle est celle des hôpitaux américains? On a vu qu'il y avait des pénuries aussi, et peut-être par endroits plus cruelles encore que celles des hôpitaux français. On l'a vu y compris sur les hôpitaux new-yorkais. Et puis on a vu que la chasse aux masques se faisait à coups de dollars sur le tarmac des aéroports chinois.
Oui, alors... Ce qui est très frappant quand on regarde de France, c'est qu'en fait, les critiques, qui sont aussi là-bas aux États-Unis très violentes, de la presse, de la population quand elle est interrogée, sont exactement les mêmes que celles qu'on connaît en France. C'est-à-dire qu'on reproche, premièrement, à l'État fédéral de ne pas avoir constitué des stocks stratégiques suffisants. Et on voit bien effectivement que l'État fédéral, donc l'administration Trump, a du mal à fournir tous les États locaux en masques, en ventilateurs. Hier, on a eu une scène quand même assez extraordinaire. Donald Trump avait dit « Mais nous, on ne peut pas donner à tout le monde, on n'en a pas assez dans notre stock. » Et hier, le gouverneur de New York, Cuomo, a été obligé d'annoncer qu'il allait recevoir 1000 ventilateurs de Chine. On avait un peu l'impression que la Chine se substituait à un État fédéral américain qui n'avait pas préparé. On a aussi, et vous le rappeliez, une très forte critique sur les masques. Il n'y a pas assez de masques. Aux États-Unis aussi, la grande discussion de ces 48 dernières heures, c'est fabriquez-vous un masque de fortune vous-même parce qu'il n'y a pas assez de masques pour tout le monde. Et Donald Trump, d'ailleurs, s'en est pris assez violemment à la firme 3M, qui est la grande fabricante, firme américaine de masques aux États-Unis, parce qu'il lui reproche en quelque sorte d'en donner trop à l'extérieur et pas assez aux États-Unis. Et donc on voit, et c'est très frappant, exactement les mêmes carences qui sont soulignées actuellement dans la gestion de la crise aux États-Unis qu'on le voit en France.
Et sur les achats de masques sur les pistes d'aéroports, on en a parlé aux États-Unis
Ah oui, justement, oui, on en parle parce que il se passe exactement, mais alors là, multiplié par 50, parce qu'il faut pas oublier qu'on a 50 États locaux auquel Trump a dit débrouillez-vous, nous l'État fédéral on peut pas tout vous fournir, donc si vous devez vous fournir des masques, allez en acheter. Donc en fait on a l'État fédéral qui passe des commandes, mais on a aussi les autorités locales, les 50 États, mais aussi des municipalités, et évidemment ça crée une demande colossale, en particulier sur le marché chinois, de masques, et on se bat à coup de dollars. Par exemple, il y a un État comme le Maine qui a connu un peu ce qu'ont connu certains États européens, c'est-à-dire qui a passé des commandes, et puis finalement les commandes ne sont pas nécessairement arrivées parce qu'il y en a certains qui payent plus cher sur le tarmac. On a exactement la même conversation, sauf qu'elle est multipliée par 50, parce qu'on a 50 États qui doivent en quelque sorte se débrouiller pour pouvoir acheter des masques à l'extérieur, et en particulier en Chine, où c'est le premier marché de fourniture du masque.
Corentin Célin, on continue d'explorer la situation américaine et la situation politique, parce qu'on est en année présidentielle, il faut le rappeler, avec vous dans un instant.
Europe 1. Patrick Cohen reste avec vous en cette période de confinement, en direct de chez lui pour cette arrivée demain.
Avec le professeur d'histoire et spécialiste des États-Unis, Corentin Célin, et à propos de Donald Trump, on l'a dit, dans la crise, mais toujours en campagne, Corentin Célin, plus que jamais en campagne pour sa réélection.
Oui, alors absolument, il ne perd pas de vue la campagne électorale, il ne rate jamais une occasion de critiquer les démocrates, que ce soit Joe Biden, qui est toujours affublé du surnom Joe l'endormi, ou les gouverneurs démocrates des États locaux qu'il critique vraiment de manière extrêmement virulente. Il est dans une gestion extrêmement partisane, et par ailleurs, ce qui est d'ailleurs aussi assez singulier, il ramène toujours tout à lui dans la gestion de la crise, et s'il a dû finalement reconnaître maintenant la gravité face au nombre de morts, il s'est lancé dans une sorte de comptabilité assez surprenante, de comptabilité macabre, en disant bon, si on arrive à limiter à 100 000 morts, c'est vraiment que j'aurais fait et qu'on aura fait du très bon boulot, un petit peu comme si ça devait être un argument électoral. Donc on voit effectivement que la gestion est à la fois partisane et électorale de la crise.
Et complètement erratique, on l'a dit. Titre qui barre toute la une du Washington Post ce matin. 70 jours de déni, de retard et de dysfonctionnement. Et évidemment, les vidéos publicitaires ou politiques ou pas qui compilent les différentes déclarations de Trump au fil de la crise sont florès sur les réseaux sociaux et sur les télévisions, puisque au départ, le virus ne devait pas passer par les États-Unis, c'est ce qu'il avait dit au tout début, hein, Corentin Célin.
Oui, alors c'est un petit peu le problème, parce que il n'a pas simplement cherché, comme l'ont fait beaucoup d'autres chefs d'État, à rassurer, à ne pas affoler. Il a été, comme toujours, mais c'est sa personnalité, il a été extrêmement affirmatif. Il a dit en particulier, et ça c'est une phrase qui commence à lui revenir extrêmement boomerang, qu'en avril, avec le printemps, avec la chaleur, le virus disparaîtrait. Or on voit bien que là, et lui-même le dit maintenant, le virus va connaître son pic, son plateau, là, durant le mois d'avril aux États-Unis. Et évidemment, c'est toujours cette volonté qu'il a de commander aux événements, d'être dans l'affirmation de soi le plus souvent, et qui, évidemment, là, dans une crise où il faut être extrêmement prudent et se plier à la vie scientifique et médicale, parce que lui n'arrive pas beaucoup à faire, eh bien, évidemment, là, ça ne fonctionne plus, même si, il faut toujours le rappeler, pour l'instant, sa base lui reste éperdument fidèle.
Donald Trump qui ne perd pas de vue son agenda politique et ses règlements de compte. Il vient de limoger le responsable du renseignement impliqué dans sa mise en accusation dans l'affaire ukrainienne, Atkinson. C'est lui qui avait transmis la plainte d'un lanceur d'alerte au Congrès. Et Trump a aussi profité de la crise pour abroger les normes de réduction de CO2 imposées par Obama à l'industrie automobile. C'est passé complètement inaperçu. Enfin, ce serait passé complètement inaperçu si Obama n'était pas sorti de sa réserve de façon spectaculaire en faisant un communiqué assez cinglant contre son successeur. Hein.
Oui, absolument. C'est vraiment très particulier le fait que Obama ait fait un tweet puis une déclaration publique pour dénoncer.
Ah, Corentin, c'est là, on vous a perdu. Est-ce que la régie peut me dire si on a une chance de le retrouver? Et j'attends les indications de la régie. Non, c'est pas pour tout de suite. Alors on va passer une courte promotion, comme on dit, pour l'antenne. Et puis on va explorer encore pour quelques minutes la situation américaine avec Corentin Célin. À tout de suite.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Toujours avec Corentin Célin pour parler des États-Unis et de la gestion Trump. Corentin Célin, avant de vous perdre, vous nous parliez d'Obama qui, dans une réaction tout à fait inhabituelle, avait sévèrement critiqué son successeur Donald Trump.
Oui, absolument. Mais c'est cette réaction d'Obama, à la fois par tweet et par déclaration publique, qui est complètement hostile à la tradition de respect entre président et ancien président, nous montre que Trump et les gouverneurs conservateurs républicains poursuivent pendant la crise du coronavirus l'application de leur agenda. Non seulement Trump a effectivement supprimé les règles d'efficacité énergétique d'Obama pour les automobiles, mais il a aussi refusé de rouvrir le marché d'Obamacare pour les assurances santé pour les gens qui venaient de perdre leur emploi à cause du coronavirus, en disant « moi je veux continuer à supprimer Obamacare, on va aller jusqu'à la Cour suprême pour essayer d'obtenir enfin la suppression d'Obamacare et je n'appliquerai donc pas cette loi ». Dans les États locaux, ça c'est très important, les gouverneurs du Sud et du Midwest républicains ont banni l'avortement sous prétexte que l'avortement n'était plus prioritaire en période de coronavirus, qu'il fallait réserver le matériel médical au coronavirus. On voit qu'il y a une poursuite de l'agenda conservateur radical de Trump et des républicains, y compris pendant la période du coronavirus, et toujours aussi avec l'idée d'aller en novembre sur la réalisation parfaite de cet agenda.
Avortement, effectivement, interdit désormais au Texas, vous avez bien fait de le souligner. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant sur le plan électoral avec un président à la fois vulnérable à cause de la crise, mais omniprésent, et un challenger démocrate, Joe Biden, invisible et quasi inaudible? Il est confiné chez lui et sans aucune prise sur les décisions, sur la crise actuelle. Ça peut déboucher sur quoi?
Alors, c'est la grande inconnue. Pour l'instant, il faut attendre. Tout dépendra, en fait, du bilan final. On voit dans les dernières enquêtes d'opinion qu'il commence à y avoir un doute quand même dans l'opinion sur ce qu'a fait Trump. En tout cas, il est beaucoup moins apprécié, par exemple, que les gouverneurs locaux, que les responsables locaux, dont la réponse au coronavirus est beaucoup plus saluée dans les études d'opinion. Mais tout dépendra du bilan. Là, si l'on poursuit sur l'envolée des cas de contamination et aussi malheureusement sur l'envolée du nombre de décès que l'on constate, plus cette crise s'aggravera, plus il sera difficile pour Trump d'avoir un récit positif pour lui politique sur cette crise. Donc tout dépendra du bilan final et on peut dire que plus la crise s'aggrave, plus il est difficile pour Trump d'aller contre les faits, d'aller contre la réalité et d'imposer, comme il a réussi toujours à le faire jusqu'ici, un récit politique favorable pour lui.
Merci beaucoup Corentin Célin. Je signale qu'on peut lire vos chroniques sur le site Les Jours. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Merci d'avoir suivi cette émission préparée par Julien Cotreau, réalisée par Julien Blanc, qui a été prompt à rétablir les liaisons dans sa régie à Europe 1, rue des Cévennes.